Alors, voilà arrivé avec l'hôtel la nouvelle exposition au musée de l'Odève. Comme beaucoup de musées, il y a une exposition d'automne. Mais on attend toujours avec une certaine impatience celle du musée de l'Odève. Et pour vous en parler, vous la faire découvrir de façon sonore, je suis avec Yvonne Papin, la conservatrice du musée de l'Odève. Bonjour Yvonne Papin.
Bonjour.
Alors, on va peut-être... Quelques mots sur le musée de l'Odève et puis comment vous trouvez que cette exposition a sa place dans le musée de l'Odève. Vous nous direz exactement qu'est-ce que c'est que cette exposition.
Alors le musée de l'Odève, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas encore, est un musée qui a été rénové et restructuré entre 2014 et 2018. Il a réouvert ses portes en 2018 avec de nouveaux espaces. La superficie a doublé. C'est un musée qui présente trois collections de nature assez différentes, mais qui sont reliées par un fil conducteur autour des questions de traces, de mémoire, et là-dedans, la question du paysage qui joue un rôle. Puisque au second étage, un plateau entier est consacré aux collections Sciences de la Terre qui retracent à peu près 540 millions d'années de la constitution des paysages que le visiteur voit aujourd'hui quand il vient à l'Odève autour de lui. Donc on raconte aux visiteurs la manière dont ces paysages se sont transformés dans des temps très reculés de l'ère géologique qui se comptait en millions d'années. Ensuite, il y a une collection d'archéologie, mais qui est centrée sur une période spécifique, celle du Néolithique, qui est une période très importante puisqu'elle, en gros, on pourrait dire que c'est un peu le début de l'Anthropocène puisque c'est le moment où l'homme se sédentarise, la chasse et la cueillette ont tendance à disparaître. Et l'homme se sédentarise pour mener de l'agropastoralisme. Donc il commence évidemment à intervenir sur le paysage pour l'aménager de manière à pouvoir faire de l'élevage. Et puis il va concevoir des outils qui vont lui permettre d'abonder dans ce sens économiquement, notamment la céramique en est un exemple, qui va servir à la fois de stockage de la nourriture et de réceptacle pour l'eau. Et puis une troisième collection consacrée à un sculpteur qui est un fond d'atelier d'un artiste lodévois qui a fait une belle carrière à Paris et qui ensuite revient dans son pays et qui a beaucoup marqué les gens de l'Odève qui l'ont connu. C'était une personnalité très intéressante d'un point de vue artistique et puis avec un caractère assez fort. Et donc ces trois... collections sont reliées, comme je le disais.
Précisons que l'artiste est Paul Dardet, quand même.
Pardon, oui, je ne l'ai pas cité, excusez-moi. Oui, il s'agit donc de Paul Dardet, voilà, qui est né en 1888 et mort en 1963, pardon, et auquel on va rendre un hommage l'année prochaine, puisqu'on célébrera les 60 ans de sa mort. Et donc ces trois collections, on a tissé un lien entre ces trois collections. Et donc au travers de cette notion effectivement de traces, de comment l'homme à un moment donné modifie le paysage, les paysages qui ont été eux-mêmes constitués lors des périodes géologiques, tout ça est un peu un fil conducteur. Ce qui fait que le thème du paysage est en soi un thème qui m'intéresse depuis longtemps et qui, du coup, avec cette exposition qui est proposée aujourd'hui, qui a pour thème le paysage à une époque donnée, me paraissait être pertinente dans le cadre du projet du musée.
Vous déclinez donc la question du paysage. C'est vrai qu'on revoit cette thématique revenir dans nombre d'expositions du musée. Alors là, c'est... aux grands artistes du paysage. Hein. Pour le grand public, c'est la référence des paysagistes, si je puis dire, tous les impressionnistes, avec toute leur diversité. Et donc une exposition que vous avez baptisée « En route vers l'impressionnisme », donc qui propose l'arrivée, l'entrée dans l'impressionnisme, et puis qui suit l'évolution un petit peu et qui va même un petit peu au-delà hein, dans ce qui est présenté. Alors, comment est née l'idée de cette exposition qui propose essentiellement, sinon en totalité, des œuvres qui viennent du musée de Reims?
Oui, alors c'est aussi une question d'opportunité. Puisque le musée des Beaux-Arts de Reims, avec lequel nous avons collaboré à plusieurs reprises, notamment au moment de la grande exposition inaugurale du nouveau musée en 2018 sur le thème du faune, où le musée de Reims nous avait prêté un certain nombre d'œuvres. Bon, ça fait qu'il y a des affinités qui naissent entre collègues, et lorsque la directrice du musée des Beaux-Arts de Reims a été amenée à fermer à son tour les portes de son musée, puisque le musée des Beaux-Arts de Reims est fermé depuis 2019 maintenant, pour mener à bien également un très très gros projet, et va probablement rouvrir que en 2025, c'est en tous les cas la date qui est annoncée pour l'instant. Ils ont donc proposé à un certain nombre de collègues en France et à l'étranger de piocher dans leurs collections, de manière à ce que ces collections, pendant tout le temps du chantier, qui est un temps long, hein, ne restent pas dans les réserves et soient visibles d'une manière ou d'une autre. Et donc j'ai saisi cette invitation au vol, et je me suis penchée dans leurs collections, et c'est là que je me suis rendu compte que la collection était très très riche en termes de paysages, et qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire sur effectivement ce début de la peinture en plein air et comment elle se développe, etc., en s'appuyant uniquement sur les collections de ce musée. Et puis, j'ai trouvé que c'était aussi une opportunité pour les habitants du sud de la France de voir des collections d'un musée très riche, qu'il n'a pas forcément l'occasion de voir, enfin, à moins d'aller à Reims, peut-être aussi pour le champagne, ou que sais-je, ou pour la cathédrale, qui est très belle. Bref, c'était aussi une manière de faire voyager une collection et de la rendre visible à un public qui ne la voit pas forcément.
Alors, qu'est-ce qui vous a plus particulièrement séduit? Alors, vous dites l'importance des tableau autour du paysage dans cette collection, des œuvres autour du paysage. Et qu'est-ce qui vous a plus particulièrement séduit? Alors, on pourra le découvrir, les gens qui viendront voir l'exposition. Il y a un ensemble de toiles de Corot, un des plus importants en France, je crois. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont particulièrement séduit dans cette collection?
C'est une collection qui est très riche pour tout ce qu'on appelle l'école de Barbizon, qui en soi n'est pas une école au sens propre du terme, puisqu'elle regroupe finalement de nombreux peintres aux caractéristiques très différentes, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils se sont retrouvés à un moment donné entre 1820 et 1870, en gros pendant 50 ans, dans un endroit qui s'appelle Barbizon, forêt de Fontainebleau. Et tout cela est rendu possible avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer qui permet à ces peintres, qui pour la plupart habitent Paris à ce moment-là, ou la région parisienne, de voyager et d'aller dans cette forêt. Et puis qui est rendu également possible en 1841 grâce à l'invention de la peinture en tube. Et du coup, le peintre devient mobile, peut emporter avec lui son matériel, et tout cela bien sûr favorise ce début de la peinture en plein air. Et donc le musée des Beaux-Arts de Reims est très riche sur cette école de Barbizon, sur ce qu'on a appelé l'école de Barbizon, et je trouvais ça intéressant de retracer cette histoire qui annonce à beaucoup de points de vue l'impressionnisme, même si c'est réducteur de dire que l'école de Barbizon, ça annonce l'impressionnisme. C'est plus que ça.
Oui, et puis l'impressionnisme a peut-être d'autres racines que l'école de Barbizon aussi. Alors, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer un peu plus en détail ce qu'il y a dans cette exposition.